Troisième séance de cette session consacrée à l'histoire de l'inconscient. Session qui est à la fois de l'ordre de la présentation de l'idée d'inconscient, de la notion d'inconscient, et aussi de l'ordre de la problématisation, puisque précisément, y a-t-il une histoire de l'inconscient? À quelles conditions y a-t-il une histoire de l'inconscient? Et puisque aussi bien nous sommes ici dans un atelier de philosophie, et qui revendique ce terme, eh bien, quels sont dans l'histoire de la philosophie les éléments de ce qu'on pourrait nommer une histoire de l'inconscient? Vous vous souvenez que dans la première séance, nous avons vu que, premièrement, la définition de l'inconscient impliquait une culture et donc une histoire. Et que, secondement, déjà, la philosophie platonicienne, sans nommer ni même penser l'inconscient, ménageait cependant la possibilité d'un savoir que je ne sais pas, et qui, en quelque sorte, peut devenir mien. Ce savoir que je ne sais pas peut devenir mien par la médiation d'un apprentissage long et difficile, dont la maïeutique est l'exemple par excellence. Vous vous souvenez que dans la communication de la dernière fois, nous nous sommes penchés plutôt sur le cadre dualiste, de la pensée dualiste qui distingue et oppose l'âme et le corps. Pensée dualiste dans laquelle le corps est un objet et l'esprit un sujet. Et nous avons vu que ce cadre n'était pas formellement remis en cause par la pensée freudienne, pour des raisons entre autres culturelles. Donc, que le corps reste largement objectif chez Freud. Mais c'est un objet témoin, c'est un objet qui porte les signes de ma subjectivité. Donc, le dualisme participe pleinement de l'histoire de l'inconscient. Et cependant, Freud redonne sens au corps, puisque c'est dans, nous l'avions vu, je ne le reprends pas spécifiquement, c'est dans la spécularité de sa relation avec l'image du corps que le moi se constitue comme tel, comme enveloppe psychique. Nous l'avions vu. Bon. Aujourd'hui, le but serait plutôt de saisir le surgissement de l'inconscient dans l'histoire de la conscience. Première communication, si j'ose dire, la définition de l'inconscient. Deuxième communication, le corps. Troisième communication, la conscience. Et en quoi l'histoire de la conscience dans l'histoire de la philosophie est-elle en quelque sorte partie prenante dans ce qu'on pourrait nommer l'histoire de l'inconscient? À partir de quel moment et dans quelles conditions peut-on lire la possibilité d'un inconscient psychique dans le cadre même des théories philosophiques de la conscience? Alors, il nous faudra éviter un écueil que vous aurez deviné immédiatement avec moi, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que les théories de la conscience sont en quelque sorte finies, qu'elles sont bornées, qu'elles sont incomplètes, et que dans les interstices de cette théorie de la conscience, dans ces manques, eh bien, il y aurait place à un inconscient. Ben, ce serait évidemment, et nous l'avons vu, ce serait inexact en un sens, parce que dès lors, on parlerait plutôt de non-conscience et non pas proprement d'inconscient. Et nous avons vu qu'il fallait faire la différence entre la non-conscience et l'inconscient, qu'il fallait faire même la différence entre le préconscient et l'inconscient. Donc il faudrait interroger ici des idées de la conscience qui, en quelque sorte, intègrent en elle-même la possibilité de l'existence d'un inconscient proprement psychique. En effet, Freud appartient à une époque, et l'époque à laquelle il appartient est une époque qui voit à la fois le triomphe de la philosophie de la conscience, son apogée, et aussi, en quelque sorte, comme c'est bien souvent le cas pour les valeurs, eh bien, qui voit aussi sa chute, d'une certaine manière, du moins son obscurcissement. Dès avant le surgissement de l'inconscient, comme le nom de l'impensé, les philosophies de la conscience ont pensé au-delà même des limites de la conscience, on pensait une instance intérieure à la conscience qui serait en quelque sorte, qui témoignerait de la relative impuissance de la conscience. Je ne vais pas évoquer ici ce que dit Blaise Pascal de l'imagination, puisque ce n'est pas l'inconscient et ce n'est pas l'inconscience, mais le fragment célèbre des pensées de Pascal qui porte sur l'imagination porte précisément sur cette guerre intestine en l'homme entre la raison et l'imagination. Et Pascal, dans le pessimisme propre au début de ce qu'il... de ce qu'il comptait être une apologie de la religion chrétienne, parce que vous savez, ce que nous appelons les pensées ne sont que les fragments qui ont été conservés d'un livre futur de Blaise Pascal qui devait s'appeler « Apologie de la religion chrétienne », mais dont, qu'il n'a pas pu écrire entièrement à cause de la maladie, et dont nous n'avons que des fragments, d'où le titre « Pensée » au pluriel, mais qui n'est pas de Pascal, hein, qui est un titre apocryphe. Et l'ordre lui-même des fragments est d'ailleurs très très problématique, il y en a eu beaucoup. Eh bien, dans ce long fragment, très écrit, très rhétorique, visiblement très, très pensé, de Pascal sur l'imagination, Pascal, tout occupé à montrer la misère de l'homme sans Dieu, montre l'imagination comme dominante, comme puissante par rapport à la raison qui, au contraire, est dominée et, au contraire, est tout à fait faible. C'est l'imagination qui nous guide et Blaise Pascal de prendre plusieurs exemples dans la vie sociale pour montrer que l'imagination règne en maître dans la vie sociale et pas du tout la raison. Donc, au sein même de l'époque classique, le XVIIe siècle, en plein héritage cartésien, bien que Pascal se distingue très nettement de Pascal, et bien même à cette époque, on peut concevoir une philosophie qui, à l'intérieur même du processus rationnel, et bien envisage la possibilité de l'existence d'un si ce n'est d'un inconscient, du moins d'un autre de la conscience. C'est en ces termes que je réfléchirai surtout aujourd'hui. C'est donc c'est dans ce cadre que je voudrais me placer et au-delà des manques, des trous de la conscience, hein, puisque précisément un des éléments les plus anecdotiques, mais les plus amusants aussi de la théorie freudienne, c'est de montrer que la conscience a des manques et que si le rêve qui habite le sommeil est une parole du psychisme qui est héritée en quelque sorte de la force de l'inconscient, il y a dans la vie de la veille de nombreux autres moments où il y a comme des blancs, comme des absences de la conscience et où on a l'impression précisément que ça parle. Donc peut-être que dans l'histoire de la conscience, il y a également ces sortes de trous, ces sortes de blancs, ces sortes de moments, ces sortes de lapsus, où on a l'impression que, précisément, c'est l'inconscient qui parle. Alors, je vous rappelle, hein, d'ailleurs, je fermerai ici la parenthèse, parce que c'est une confusion qui est souvent rencontrée. Même dans le rêve, l'inconscient ne parle pas directement. Jamais l'inconscient ne parle directement. Comment cela serait-il possible ? Ce qui parle, c'est, en quelque sorte, le résultat. Ce qui est parole, c'est le résultat des représentations de pulsions inconscientes et de la censure de la conscience. Mais la conscience n'est pas toujours assez forte pour tout censurer et pour censurer de façon efficace. La plupart du temps, oui. La plupart du temps, la conscience censure de façon efficace parce qu'elle possède des instruments culturels, ceux du surmoi, pour ne pas dire, pour que, plus exactement, ça ne parle pas. Et pour que ce qui parle, ce soit le sujet. Donc la plupart du temps, dans la veille, la conscience censure et censure efficacement. Mais pas toujours. Parfois, les représentations de pulsions, je répète que pour Freud, l'inconscient n'est pas peuplé de pulsions, mais de représentations de pulsions, c'est pourquoi l'inconscient est psychique, il est bien psychique, n'est-ce pas ? Eh bien, quelquefois, ces représentations de pulsions sont dotées d'un dynamisme pulsionnel, d'une force telle que la conscience est ici assez paralysée. Et à partir de ce moment-là, on a une parole qui surgit et qui n'est pas la parole directe de l'inconscience parce que la conscience censure encore. Et je fermerai ici la parenthèse en faisant remarquer la plupart du temps, nos rêves semble absurde. S'ils semblent absurdes, ça n'est pas qu'ils sont dérivés de l'inconscient. S'ils semblent absurdes, c'est parce que la conscience a censuré les représentations inconscientes très efficacement pour les faire paraître précisément sans signification, pour les faire apparaître absurdes. Ce qui fait que, voilà, oh, j'ai rêvé quoi ? J'ai rêvé d'un poussin bleu cette nuit, oh, un poussin bleu, haha, quelle idée ! Voilà, et je passe à autre chose. Je passe à autre chose parce que, évidemment, le poussin bleu n'était que... Je ne sais pas pourquoi je dis le poussin bleu, je l'ai inventé, vous voyez, bon, donc il faudrait... Eh bien, le poussin bleu n'était que le contenu manifeste du rêve, tandis qu'il y a derrière un contenu latent qui, lui, voulait se dire. Mais la conscience a inventé, un petit peu prise au dépourvu, dans le sommeil, elle a inventé un peu n'importe quoi ici. Bon. C'est l'idée de... Enfin, n'importe quoi, pas exactement n'importe quoi, parce que précisément, bon, il y a ici une voie que l'on peut suivre pour mener à l'inconscient. Donc, pourquoi n'y aurait-il pas, dans l'histoire de la conscience, ces sortes de moments, de lapsus ou de raptus, qui font que, eh bien, quelque part, même dans l'histoire de cette conscience, eh bien, l'inconscient surgit comme une parole, et on pourrait dire en quelque sorte que même dans l'histoire de la conscience, parfois on a l'impression que ça parle. Je voudrais évoquer donc aujourd'hui trois philosophes, c'est un peu mon idée si vous voulez, hein, de voir dans l'histoire de la philosophie l'histoire de l'inconscient et de voir dans l'histoire de l'inconscient l'histoire de la philosophie. Trois philosophes qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver ici, du moins le premier, et qui cependant ont développé une idée de l'inconscient qui ne soit pas simplement de l'absence de conscience. Je voudrais commencer par quelques remarques sur un philosophe allemand et d'expression parfois française du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui s'appelait Gottfried Leibniz. Leibniz. C'est le même que mathématicien. Alors, Gottfried Wilhelm d'ailleurs, Leibniz, L-E-I-B-N-I-Z, un philosophe allemand, d'héritage cartésien, de la fin du XVIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, Leibniz, L-E-I-B-N-I-Z, philosophe allemand, d'expression française, il a écrit le discours de métaphysique en français, mais je voudrais évoquer ici certains de ses essais qui ont été regroupés sous le titre « Nouveaux essais sur l'entendement humain ». Nouveaux essais sur l'entendement humain. Alors, dans un texte assez célèbre, Leibniz remarque quelque chose qui ressemble tout de même à un inconscient psychique. Alors il produit une théorie de la conscience et de la connaissance dans le plus pur héritage cartésien. Là, il n'est pas obscur de ce point de vue-là. Et il remarque que déjà, nos perceptions sont la plupart du temps accompagnées de conscience. Nous avons conscience de ce que nous percevons dans la veille et même un peu dans le sommeil. Nous avons déjà rencontré cette idée. J'ai conscience de ce que je perçois dans le sommeil. La meilleure preuve, si un grand bruit se produit, je me réveille, donc j'ai entendu le bruit. Donc il y a tout de même une conscience de la perception, y compris dans le sommeil et dans la veille, elle est évidente. Donc nos perceptions s'accompagnent de conscience. Mais là, en quelques lignes, Leibniz a une hésitation. A une hésitation qui est bien connue. Et il s'avoue à lui-même qu'il y a cependant des perceptions qui ne sont pas accompagnées de conscience. Alors, ça pose un problème, parce que ou bien la perception est accompagnée de conscience, ou bien comment nommer des perceptions qui ne sont pas accompagnées de conscience ? Alors, il ne prononce pas ni le mot inconscient, ni l'adjectif, il n'utilise pas l'adjectif inconscient, bon, en allemand, hein, c'est écrit en allemand, mais cependant, il utilise des périphrases qui sont ici assez remarquables. Je vais lire ces quelques lignes, mais avant, j'explique en quelques mots. Il y a, explique-t-il, des toutes petites perceptions. Il faut savoir que Leibniz est, comme mathématicien, un des promoteurs du calcul infinitésimal, et donc il s'intéresse beaucoup, après tout le XVIIe siècle, à l'infiniment petit, et y compris à l'infiniment petit en l'homme. Et il y a des perceptions qui sont si fines, si rapides, si éphémères, que finalement, elles sont bien des perceptions, mais elles n'ont pas le temps de parvenir à la conscience. Voilà. Tout se passe comme si elles n'avaient pas le temps de parvenir à la conscience. Je ne sais, moi, un éclair, une vision, je vois quelque chose en un éclair, j'entends quelque chose en un éclair, une fraction de seconde, et il y a là tout de même une perception, mais elle n'est pas parfaitement consciente. Alors, si on s'arrêtait là, on dirait, bon, là, il n'y a aucun problème ici, il n'y a aucune difficulté, c'est le mécanisme du corps qui produit ce genre de perception. Mais, et puis, n'en parlons plus, ça n'a rien à voir avec une théorie de l'inconscient. Là où il y a plus, c'est que Leibniz poursuit en se disant, mais bien qu'elle soit infinitésimale, et donc, c'est moi qui dis inconsciente, c'est moi qui le dis, ce n'est pas Leibniz. Hein. Eh bien, cependant, ces représentations infinitésimales, eh bien, en effet, elles peuvent se synthétiser, s'ajouter les unes aux autres, et même avec des représentations conscientes, et ainsi donner du sens à d'autres représentations conscientes. Donc, elles ne sont pas complètement gratuites. Elles ne sont pas complètement inutiles. Elles ont quelques valeurs parce que elles sont dans la possibilité de se synthétiser. Alors là, c'est tout autre chose. Là, on est véritablement dans presque l'idée d'un inconscient, bien que ce soit pas un inconscient freudien du tout. Mais c'est l'idée. S'il y a synthèse possible de ces petites perceptions qui finalement, en se synthétisant, parviennent à la conscience, alors là, c'est quelque chose qui est très proche d'un mécanisme inconscient. Je vous lis ces quelques lignes extraites donc des nouveaux essais sur l'entendement humain. D'ailleurs, écrit Leibniz, il y a 1000 marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous. Il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception, ça veut dire conscience, et sans réflexion, aperception, faire apercevoir. C'est un mot qui existe en philosophie qui est assez rare. Il existe chez Leibniz et chez Kant en particulier, mais bon, ça veut dire conscience. Donc il y a une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception, égale conscience, et sans réflexion. C'est-à-dire des changements dans l'âme même, dont nous ne nous apercevons pas, parce que les impressions sont ou trop petites, ou en trop grand nombre, ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais, jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir, au moins confusément, dans l'assemblage. C'est ainsi que l'accoutumance fait que nous ne prenons pas garde au mouvement d'un moulin ou d'une chute d'eau quand nous avons habité tout auprès depuis quelque temps. Ça me rappelle un exemple d'une amie qui habitait près de la cathédrale à Angers et à qui tout le monde demandait si les cloches de la cathédrale l'empêchaient de dormir. Elle disait une seule fois dans l'année au moment de Pâques, quand il n'y avait plus de cloches. C'est là qu'elle ne dormait pas. Oui, bien sûr, c'est là qu'elle ne dormait pas parce qu'elle avait tellement l'habitude d'entendre les cloches que c'est précisément les cloches qui la faisaient dormir et c'est l'absence de cloches qui l'empêchait, du bruit des cloches qui l'empêchait de dormir. Alors revenons sur ce texte de Leibniz. Il y a deux formules dans ce texte qui sont apparemment contradictoires, mais qui révèlent en fait un véritable travail de réflexion. C'est que tout d'abord, Leibniz écrit que ces perceptions existent en nous sans aperception égale conscience et sans réflexion, et que ensuite, ayant établi la possibilité d'une synthèse entre elles de ces petites perceptions, il dit qu'elles se font sentir, au moins confusément, dans l'assemblage. Alors il faudrait savoir, elles sont d'abord inconscientes et irréfléchies, ou bien ensuite elles sont conscientes. Eh bien, il y a là quelque chose qui se joue, c'est-à-dire que chaque petite perception est inconsciente en elle-même, mais dans sa capacité, la capacité de toute perception à se synthétiser avec un ensemble d'autres perceptions, eh bien, chaque petite perception est capable finalement de donner une signification à un assemblage, même si c'est obscur et si c'est confus. Eh bien, là, on a, me semble-t-il, et je ne suis pas le seul à le penser, hein, on a, me semble-t-il, une véritable théorie de l'inconscient. Ça n'a rien à voir avec l'inconscient de Freud, mais ça signifie bien que c'est de l'inconscient parce que, précisément, il y a ce dynamisme de la pensée et puis cette progressivité dans la prise de conscience. Vous avez vu, vous vous souvenez que à la première communication, on avait vu ces deux choses pour l'inconscient. Premièrement, il faut qu'il y ait du dynamisme pour qu'il y ait de l'inconscience. Ça, c'est simplement du rebut de la conscience. Bon, et ça, le rebut de la conscience, ça n'est pas de l'inconscient, c'est du non-conscient. Bon. Et il faut qu'il y ait également une médiation, j'y insiste à chaque fois parce que ça me semble vraiment constitutif, une médiation difficile vers la conscience. C'est-à-dire, la représentation inconsciente ne devient pas consciente comme cela d'un claquement de doigts ou en un instant. Hein. Elle ne devient pas consciente facilement. Donc, eh bien, c'est le cas ici. Il y a cette synthèse, cet assemblage des petites perceptions qui finit par produire une signification. Et du reste, lorsque on étudie l'histoire de l'inconscient pour amener à Freud dans les programmes de philosophie, on ne manque pas de signaler ce texte de Leibniz dans les nouveaux essais sur l'entendement humain pour précisément montrer qu'il y a là, avec l'idée d'accoutumance et d'habitude, qui sera bien plus développée par la suite par Hume, d'ailleurs, le philosophe écossais David Hume, eh bien, il y a là tout de même cette idée. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que nous sommes au cœur d'une philosophie de la conscience. C'est-à-dire que la philosophie, et c'est mon propos de toute la journée, j'allais dire de tout aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il est possible de trouver des philosophies de la conscience qui ont pensé l'inconscient, qui ont pensé au moins un peu la possibilité d'un inconscient. L'inconscient, nous avons l'habitude de le concevoir, parce que nous sommes post-freudiens, nous avons l'habitude de le concevoir dans une pensée qui n'est pas philosophique, celle de Freud, n'est pas philosophe, il n'a jamais voulu l'être, et dans quelque sorte en une situation frontale par rapport à la philosophie de la conscience. Il y aurait la conscience et puis l'inconscient qui serait cette contestation permanente, cette autre. Eh bien, il est possible de lire également dans l'histoire de la conscience des traces de cette présence de l'inconscient, par exemple ici. Alors, ce n'est pas du non-conscient, ce dont nous parle Leibniz, ces petites perceptions, ce n'est pas du préconscient, précisément parce qu'il y a cette possibilité de synthèse. Ce n'est pas une grandeur négative. C'est ça qui pose problème dans l'idée d'inconscient. C'est l'idée de grandeur négative. En quel sens quelque chose qui est un pourrait-il exister, hein, c'est assez difficile à penser. Bon, quelque chose qui est un, I-N, n'est-ce pas, qui est privé d'eux, en quel sens cela existe ? L'inconscient, c'est ce qui est privé de conscience, mais est-ce que ça a une existence propre par rapport à la conscience? Donc, ces philosophies-là, évidemment, ne pensent pas l'inconscient dans l'indépendance, dans l'autonomie de l'inconscient, mais plutôt dans sa présence mystérieuse et obscure au sein même d'une théorie de la conscience. Et puis, on pourrait dire, mais enfin, il s'agit du corps. Un grand philosophe et grand professeur de philosophie, encore plus que grand philosophe, Émile Chartier dit Alain, professeur de philosophie pendant très longtemps à Paris, et qui était d'obédience kantienne, Alain, mais qui, par ailleurs, n'était pas fermé à la philosophie de son époque et à la pensée de son époque. Il faut déconstruire la philosophie de Alain en tant qu'elle se donne dans une médiation particulière et puis aussi dans une autre. Je ferme ici la parenthèse. Alain disait « l'inconscient, c'est le corps ». En fait, ce que Freud peine beaucoup à établir comme une puissance psychique, en fait, il suffirait de faire confiance au corps dans son autonomie, dans son indépendance, pour avoir toutes les solutions aux problèmes que pose la théorie freudienne. C'était la réponse d'Alain. Alain ne pensait pas qu'il était nécessaire de poser l'existence, l'hypothèse de l'existence d'un inconscient psychique. Et il le faisait au moment même de la théorie freudienne et au moment du succès et des premiers succès en Europe de la théorie freudienne et des premières traductions par la princesse Marie Bonaparte. Ici, chez Leibniz, en tout cas, ça n'est pas le cas. On pourrait dire le perception, petite perception, donc c'est le corps. Non, ce n'est pas le corps, puisque précisément, il nous dit que les perceptions sont accompagnées de conscience, sauf certaines tout petites qui ne le sont pas, mais qui finissent par l'être lorsqu'elles se synthétisent. Donc finalement, on n'est pas dans une philosophie du corps. D'ailleurs, pour lire Leibniz, enfin, et quand on lit Leibniz, les très nombreux essais qu'il a écrits, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'une philosophie du corps, mais totalement dans le cadre d'une philosophie de la conscience. Leibniz reste un mécanicien. Quand je dis un mécanicien, ça veut dire un philosophe qui appartient à la pensée mécanique, c'est-à-dire l'héritage de Bacon, l'héritage de Descartes. Donc, les petites perceptions, ce n'est pas le corps. Et ici, on a peut-être affaire aux prémices, disons, du moins à une idée fugitive de la possibilité d'un inconscient à l'intérieur même, en quelques lignes, à l'intérieur même d'une philosophie qui est plutôt celle de la conscience. En fait, si on s'avance dans l'histoire de la conscience, on s'aperçoit que c'est tout le 19e siècle qui conteste la philosophie de la conscience après la philosophie d'Emmanuel Kant, qui est évidemment certainement une forme d'apogée de cette philosophie de la conscience. Donc Kant meurt au tout début du 19e siècle, et ensuite finalement les grands philosophes allemands et français du 19e siècle ne seront plus des philosophes de la conscience, ne seront plus des philosophes de la conscience. Donc il y a une sorte, non pas de discrédit, non pas de dévaluation, mais une défocalisation, si je puis me permettre ce terme qui n'est pas beau, c'est-à-dire que la philosophie ne se focalise plus sur la conscience et en quelque sorte même s'intéresse à d'autres phénomènes psychiques et humains qui ne sont pas ceux de la conscience. Par exemple, en France, on a deux penseurs, deux philosophes, qui sont là, alors, les premiers philosophes du corps, à proprement parler, et qui détournent l'attention de la philosophie de la conscience. Il s'agit de Maine de Biran, comme le département, Biran, B-I-R-A-N, Maine de plus loin, Biran, qui est un philosophe du corps. Et dans à sa suite, en quelque sorte, un autre philosophe, Félix Ravesson, R-A-V-A-I, 2-S-O-N, qui écrit un ouvrage d'inspiration à la fois aristotélicienne et hégélienne, peu importe, et qui s'appelle « De l'habitude », et qui est centré aussi sur la question du corps. Donc il y a la naissance d'une philosophie du corps en France au XIXe siècle, et dont des philosophes comme Bergson et plus tard encore Merleau-Ponty seront les héritiers. Donc il y a place également dans cette défocalisation, il y a place non pas pour l'idée d'inconscient qui viendrait de l'idée de corps, je le répète une fois de plus, ni chez Breuer, l'inventeur de l'inconscient, de l'idée d'inconscient, ni chez Freud, ni chez Brentano, qui les précède encore, trois Allemands qui, chacun des trois, invente littéralement l'idée d'inconscient, et Freud qui vient à la fin pour la systématiser, il n'y a aucune relation avec la philosophie du corps, ni chez l'un, ni chez l'autre. L'inconscient n'est pas né d'un développement de la philosophie du corps, il est né d'un trouble de la philosophie de la conscience. Donc, c'est plutôt dans cette voie qu'il faut chercher. Mais évidemment, il y a là comme un discrédit, peu à peu, de la conscience comme valeur. Cependant, chez Maine de Biran et chez Ravesson, il y a tout de même encore une ambiguïté, c'est qu'on ne distingue pas vraiment entre automatisme et réflexivité. Non, j'évoquerai, juste avant d'évoquer le second philosophe sur lequel je vais attirer notre attention, j'évoquerai un autre philosophe allemand, allemand, de la moitié du 19e siècle, enfin son œuvre est vraiment centrée au milieu du 19e siècle, c'est Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, un philosophe allemand du 19e siècle, hein, non, ni de la fin, ni du début. Il est vraiment son œuvre principale, c'est-à-dire le monde comme volonté, le monde comme représentation, et comme représentation, eh bien, date vraiment des années 1850-1860. Il y a là comme un pas qui se fait, qui va libérer Nietzsche et qui va libérer bien des pensées. Je vais essayer de le dire, mais je n'ai ni le temps ni l'ambition de résumer la philosophie de Schopenhauer, qui est très, très massive. Pour ce philosophe, l'essence des êtres et des choses se situe dans la volonté. Dans la volonté. L'être, c'est la volonté. Voilà. Nous avons une représentation de l'être erronée. Pour nous, l'être, c'est quelque chose d'abstrait ou quelque chose de concret, mais c'est une chose, une réalité, si vous voulez, abstraite ou concrète. Tandis que l'être, c'est un mouvement, c'est un vouloir. Hein ? C'est le vouloir qui est l'être. Donc, tout ce qui est, veut être. Non pas que ce qui est avec une volonté d'être, comme une sorte d'instinct de survie. Parce que ce cahier veut être aussi. Hein ? Il est un ensemble de molécules qui sont bien cohérentes ensemble. Et pourquoi ne pas nommer volonté tout ce qui persiste dans l'être ? Voilà. Tout ce qui est et persiste dans son être, être vivant, homme, être vivant, chose, tout cela veut. Nous nommons volonté une seule petite faculté humaine, qui serait le désir humain, le désir rationnel humain. Et pourquoi pas concevoir la volonté comme à l'essence même des choses, hein ? C'est cette thèse qui est la sienne dans le monde comme volonté et comme représentation. Il faut donc sortir de notre philosophie de la représentation pour entrer dans une philosophie de la volonté. Tout concevoir comme effet de la volonté, comme vouloir vivre en quelque sorte. Et en particulier, ce sont les êtres vivants qui manifestent le plus et le mieux la volonté parce que justement, ils la manifestent comme un vouloir vivre. Le vouloir vivre. À partir de ce moment, alors, ça débouche après sur une philosophie pessimiste dont je ne signale pas ici les termes parce qu'ils ne sont pas exactement de notre propos. Mais précisément, cette volonté est en elle-même ce qui fait la vie et ce qui fait l'impossibilité de la vie. Donc le malheur humain est de toujours vouloir vivre et il faudrait, pour trouver le bonheur, se défaire de cette volonté de vivre. C'est là que Schopenhauer est influencé par ce qu'il imagine être la pensée orientale, ce qu'il imagine être la connaissance de la pensée orientale en Allemagne au XIXe siècle. Hein. Faut être très relatif ici. Et donc, il faudrait atteindre un état de déprise de la volonté, ce qu'il imagine être l'idéal du bouddhisme. Et faudrait ainsi atteindre ce bonheur par cette déprise-là de la volonté, car c'est la volonté de vivre qui nous rend malheureux. Hein. Donc, ça, c'est une parenthèse. Je ferme ici la parenthèse parce qu'elle ne relève pas de notre propos, mais je reviens à cette idée de la critique de la représentation. En effet, cette philosophie, c'est une critique de la représentation. Il s'agit de dépasser la pure conscience représentative. La simple représentation ne forme plus, en quelque sorte, le modèle de l'activité de l'esprit. Donc la conscience, en quelque sorte, qui sert précisément à se représenter le monde, la conscience qui se représentait le monde, c'était le mot d'ordre de la philosophie, de Descartes, Leibniz, peut-être jusqu'à Kant, effectivement, dit « Vorstellung », hein, la « Vorstellung », c'est la représentation en allemand. Et ce mot est constant dans toute la philosophie classique et jusque dans la philosophie des Lumières. Mais elle est déjà critiquée, ce terme est déjà critiqué dans la philosophie hegelienne. Enfin, Il est critiqué dans cette philosophie de ce terme est critiqué, dit Forschelung, représentation dans la philosophie de Schopenhauer. Il ne s'agit pas de se représenter le monde, il s'agit de vouloir avec le monde jusqu'à épuiser cette volonté par la volonté même, etc. Bon. Donc, la conscience est destituée, en quelque sorte, de son statut. Alors, il n'y a pas d'inconscient de Schopenhauer, mais il va y avoir une idée de l'inconscient chez un autre philosophe, et c'est mon deuxième philosophe, le premier c'était Leibniz, et là j'ai dit quelques mots, si vous voulez, de Schopenhauer, mais je voudrais maintenant parler de Friedrich Nietzsche. Hein, Nietzsche, qui est un disciple lointain de Schopenhauer, enfin Schopenhauer a représenté une référence très importante pour Nietzsche, et ensuite il s'est séparé de cette référence. Alors, la philosophie de Nietzsche est vraiment une philosophie de la fin du XIXe siècle, philosophie qu'il a pu nommer lui-même, d'ailleurs, d'une certaine manière, crépusculaire. Enfin, il y a deux livres de Nietzsche, il y en a un qui s'appelle « Crépuscule des idoles » et un autre qui s'appelle « Aurore ». Et Nietzsche se situe justement entre ce crépuscule des vieilles valeurs et cette naissance des nouvelles valeurs, mais alors qu'on voit bien le crépuscule, on a parfois du mal, et lui-même, à discerner les nouvelles valeurs, l'aurore des nouvelles valeurs qui sont en cause. Nietzsche hérite en tout cas de Schopenhauer cette idée, après il va se séparer de lui, cette idée de la volonté. Il ne reprend pas le vouloir vivre, mais il reprend cette destitution de la conscience et cette destitution de la représentation. L'homme ne se définit pas, il ne s'explique pas, ne se comprend pas comme un être de représentation, un être conscient. La conscience est pour Nietzsche, et on voit qu'on est à la même époque, juste avant Freud, pas du tout dans les mêmes termes, mais il y a quand même des courants qui passent et qui sont communs. Pour Nietzsche, la conscience est un phénomène tout petit. Un phénomène extrêmement marginal dans la capacité humaine à penser, en quelque sorte. La conscience est véritablement un instrument à la fois infime et assez médiocre de l'être au monde, de l'être humain. C'est-à-dire que c'est lui qui nous fournit des représentations qui sont certes utiles à la vie quotidienne, à la vie utile à ne pas tomber, en effet, utile, mais c'est un instrument tout à fait marginal. Alors, cela, Nietzsche le garde de Schopenhauer, et il garde également l'idée de volonté. Alors, vous le savez peut-être, chez Nietzsche, dans l'œuvre de Nietzsche, la volonté de vivre s'estompe et laisse la place, peu à peu, à ce qui va devenir le concept fondamental de la philosophie de Nietzsche, et qui s'appelle « La volonté de puissance ». C'est même le titre d'une future œuvre, là aussi, qu'il voulait écrire, et qu'il n'a pas écrite, et dont on a des fragments, et qui a été publiée par la suite par sa sœur, mais dans des conditions contestables. Donc bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est de l'historiographie de la philosophie, ça n'est pas notre objet. Qu'est-ce que la volonté de puissance ? Alors, bien entendu, comme presque toujours avec Nietzsche, le contresens est toujours très proche, très possible, et il faut l'éviter. La volonté de puissance, ça n'est pas la volonté d'être puissant, parce que ça, c'est le propre de la faiblesse. La volonté d'être puissant, c'est le propre de la faiblesse. La volonté de puissance, c'est la puissance qui se veut. Voilà. La volonté de puissance, c'est la puissance qui se veut comme telle. Alors, la puissance, qu'est-ce que c'est ? Évidemment pas la force. Le contraire de la force, la puissance, c'est la création. La puissance, c'est la création. Se créer, se considérer soi-même comme toujours un objet de création. Le modèle de la volonté de puissance, c'est l'artiste. C'est l'artiste qui est créateur. Il a cette puissance en lui et il veut cette puissance. La volonté de puissance, c'est ne pas cacher, ne pas avoir honte, ne pas être coupable de la puissance de se créer, mais vouloir créer, se vouloir créateur de soi. Se vouloir créateur de soi. Tel est le sens profond de la volonté de puissance chez Nietzsche. Enfin, profond, je dis profond, le sens réel de la volonté de puissance chez Nietzsche. Se vouloir créateur de soi. Donc on est loin évidemment des fantasmes de surpuissance, des fantasmes de force tels que la philosophie de Nietzsche a malheureusement été exploitée par le nazisme. Donc il y a ce lien avec Schopenhauer, c'est-à-dire ce déplacement de la conscience vers la volonté. Il y a cette idée que c'est dans la volonté que réside l'essence de l'homme. Il y a donc chez Nietzsche une véritable critique de la conscience, ce qui fait que Nietzsche est encore un philosophe de la conscience, mais c'est un philosophe critique de la conscience. Et en un sens, il y a peut-être, en un sens tout à fait anti-freudien, mais il y a peut-être ici, dans cette critique de la conscience, la possibilité de penser, à l'intérieur de même d'une philosophie de la conscience, la possibilité de penser à l'inconscient. Dans un fragment de la volonté de puissance, il parle précisément de ce peu de choses qu'est la conscience. Ce peu de choses, je le cite. Si la conscience est si infime, c'est, dit-il, qu'elle n'est qu'un instrument. Et là, vous voyez qu'on est vraiment dans une théorie de l'inconscient, même si ce n'est pas l'inconscient freudien, parce que les termes sont là, cette fois. Contrairement à Leibniz, où l'inconscient n'est pas là, le terme, contrairement à Schopenhauer, où le mot inconscient n'y est pas, eh bien là, il y est. Je cite ce fragment de la volonté de puissance. Ce dont nous avons conscience, c'est peu de choses. À combien d'erreurs de confusion ce peu de conscience nous mène ? C'est que la conscience n'est qu'un instrument. Et en regard avec toutes les grandes choses qui s'opèrent dans l'inconscient, elle n'est, parmi les instruments, ni le plus nécessaire, ni le plus admirable. Il n'y a au contraire pas d'organe aussi peu développé qui travaille aussi mal. Donc, finalement, on a une idée qui n'est pas une idée freudienne, mais qui est parallèle, en quelque sorte, à une idée freudienne, c'est que la réalité psychique est immense, et elle est inconsciente, tandis que la conscience n'est qu'une faible partie de cette réalité psychique, qu'elle n'est qu'un instrument, et encore, un instrument très tardif, un instrument très peu adapté, un instrument très faible. Il ajoute, oui, c'est un organe encore enfant, écrit Nietzsche, qui n'oublie pas qu'il est poète. Nietzsche est considéré dans la culture allemande également comme un poète. Il a écrit des poèmes d'ailleurs, et qui sont considérés comme des poèmes, et qui sont étudiés comme des poèmes également. Et donc, un organe encore enfant, c'est ainsi qu'il nomme la conscience, c'est une formule poétique assez intéressante, et il poursuit juste ces quelques lignes. Il faut renverser la hiérarchie. Tout le conscient est d'importance secondaire. Du fait qu'il nous est plus proche, plus intime, ce n'est pas une raison pour l'estimer plus haut. Nous confondons la proximité avec l'importance, c'est là un vieux préjugé. Donc la conscience nous est très proche, mais elle est très faible. Nous, c'est l'arbre qui cache la forêt, si l'on peut s'exprimer ainsi. La forêt, c'est bien l'inconscient, et c'est bien précisément la réalité psychique dans toute son ampleur, et nous ne voyons que le premier arbre qui est en quelque sorte les phénomènes conscients. Que sont les phénomènes conscients. Et je me permets d'insister sur une formule très nietzschéenne lorsqu'il dit « il faut inverser la hiérarchie ». Alors là, c'est tout à fait propre à ce philosophe, il faut inverser la hiérarchie. Que veut-il dire par là ? La conscience n'est pas seulement une idée, c'est un idéal, c'est une valeur. La conscience a été valorisée, ne serait-ce que par toute la philosophie occidentale qui promeut l'homme conscient, l'homme raisonnable, l'homme responsable en quelque sorte. L'homme s'est éduqué lui-même pour être responsable, pour répondre de ses actes. C'est la grande théorie de Nietzsche. Il fallait pouvoir accuser les hommes. Il fallait pouvoir accuser parce que le gouvernement de la caste des prêtres avait besoin de pouvoir... Caste des prêtres, c'est à prendre au sens très très large. Pas du tout les prêtres. Lui-même, Nietzsche, a quelque chose contre peut-être contre les prêtres ou plutôt contre les pasteurs, puisqu'il était fils de pasteur, petit-fils de deux pasteurs. Et que, bon, déjà, ça doit créer une sorte de culture tout de même. Hein, et qu'il a lui-même été destiné à devenir pasteur, et comme c'était tout à fait logique, et qu'il s'est détourné véritablement. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, dans son délire, il parlait de Dionysos, parce que vers 18 ans, il se détourne vers la culture grecque. Et il devient philologue, professeur de philologie, c'est-à-dire de culture grecque à l'époque. Donc voilà, il y a comme une bifurcation très, très nette. Hein. Mais enfin bon, je reviens. Pour Nietzsche, l'instrument principal de la caste des prêtres pour établir leur pouvoir, c'est la mauvaise conscience, c'est la culpabilité. Parvenir à faire ressentir aux hommes la mauvaise conscience, la culpabilité, parce que ainsi, cette caste aura pouvoir sur les hommes, puisque seuls ils sont capables de leur décharger leur mauvaise conscience, leur remords, leur culpabilité. Pour cela, il faut que les hommes se sentent responsables. Il faut cultiver en eux la responsabilité morale. Pour l'essentiel, mais bientôt pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire pour tout. Il faut que les hommes se sentent coupables de tout. De ce dont ils sont responsables et aussi presque de tout le reste. Bref, d'un maximum de choses. Responsables de l'histoire tout entière et bientôt, pourquoi pas, responsables de la nature. Le lion dévore la gazelle. Mon Dieu, c'est ma faute. Presque. Hein, une responsabilité totale. Pour que les hommes soient responsables, il faut précisément qu'ils soient conscients, que la conscience de leurs actes les poursuive en quelque sorte en permanence. Donc la pensée grecque, l'hellénisme, le judaïsme, le christianisme ont dû développer la philosophie de la conscience, parce que la conscience produit la conscience morale, la responsabilité, la culpabilité. Et le but, c'était la culpabilité dès le départ. Hein ? Le but, c'était dès le départ la culpabilité. Et pour obtenir la culpabilité, on est passé par l'intermédiaire de la culture de la conscience. Bon. Alors, il faut faire voler ça en éclats pour Nietzsche. Ou plutôt, il faut attendre. Voler en éclats, c'est faux, je me corrige, jamais Nietzsche ne dirait cela. Il faut attendre avec impatience. Mais il faut attendre parce que la conscience est une valeur. Et que comme toute valeur, elle a une naissance et une mort. Toutes les valeurs sont mortelles. Hein. Toutes les valeurs meurent. Et lorsque Nietzsche écrit qu'il faut philosopher à coups de marteau, quelquefois on a fait une confusion. On a pensé qu'il s'agissait là d'un instrument de destruction. Il s'agit là surtout du marteau de celui qui, mon Dieu, il a sans doute un nom celui-là, de l'homme qui repère si les cloches, encore elles, sont fêlées ou pas. Avec un marteau, il fait sonner la cloche et la cloche rend un son plein ou alors elle rend un son qui n'est plus plein et la cloche est fêlée. Hein. Ainsi, le philosophe pour les valeurs. Il fait sonner les valeurs et il écoute le son qu'elles rendent. Et parfois, cette valeur rend un son désagréable. La valeur est fêlée, elle va bientôt mourir. Voilà. Hein. Donc c'est ça, le marteau, c'est l'instrument du philosophe en ce sens-là. Hein. Donc les valeurs sont mortelles et ainsi la conscience est en train de mourir. C'est une valeur qui est en train de mourir. Hein. La valeur qui est en train de naître, c'est la volonté. La volonté de puissance, la valeur qui est en train de mourir, c'est la conscience. Et le philosophe doit donc, non pas être un précurseur, mais être une avant-garde. Une avant-garde, pas un précurseur, une avant-garde. Il accompagne et donc il inverse la hiérarchie des valeurs. En haut de cette hiérarchie, il n'y a plus la conscience, mais il doit y avoir la volonté. Alors il arrive quelquefois à Nietzsche de dire que ce que nous appelons notre raison est une toute petite raison et que la grande raison est le corps. Ainsi, par exemple, ainsi parle Zarathoustra dans « Ainsi parlait Zarathoustra », précisément. Voilà une œuvre de Nietzsche qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathoustra » et qui est un long poème en même temps qu'une œuvre philosophique. Or, Zarathoustra, à un moment, dit d'une part, j'ai quelque chose à dire à ceux qui veulent, à ceux qui méprisent le corps, qu'ils essayent de s'en défaire. Et il faut connaître Nietzsche, ça ne veut pas dire essayez donc, c'est un défi que je vous lance, essayez de vous défaire de votre corps. Non, c'est débarrassez-vous de votre corps, comme cela vous ne parlerez plus et on sera débarrassé de vous. Voilà, hein, c'est beaucoup plus radical que cela. Et puis surtout, Nietzsche dit de cette grande raison qu'elle est le corps. Mais c'est une métaphore, il faut bien comprendre cela. Jamais Nietzsche n'est véritablement un philosophe du corps. C'est un philosophe critique de la conscience, c'est un philosophe de la volonté, mais ce n'est pas un philosophe du corps. Et ainsi pour beaucoup, beaucoup de pages de « Ainsi parlait Zarathoustra », si je peux me permettre une parenthèse, la pédagogique, pour tout un chacun, vous et d'autres. On est quelquefois, on voit des jeunes quelquefois, par exemple, des jeunes étudiants qui sont intéressés par Nietzsche et qui vont facilement vers ce philosophe, il faut le faire, si on veut le faire, bien entendu. Mais si c'est pour Zarathoustra, il faut le faire avec précaution et prudence, car tout est symbole. Dans Zarathoustra, tout est symbole. Hein. C'est une œuvre vraiment codée, véritablement. Hein. Il faut tout décoder, et c'est très difficile. C'est très difficile, c'est un des philosophes les plus difficiles à lire, alors qu'apparemment, c'est un philosophe des plus séducteurs. Hein. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire Nietzsche, mais je dis qu'il faut le faire avec prudence et en s'entourant de tout un appareil critique pour précisément ne pas tomber dans des contresens où d'aucuns sont déjà tombés auparavant. Donc le corps, ça n'est pas vraiment le corps que désigne Nietzsche lorsqu'il dit qu'il faut que la grande raison, c'est le corps. C'est une idée métaphorique, de la même manière quand il dit qu'il faut être danseur, il faut se faire danseur, et danseur sur une corde, sur un fil. Eh bien, que veut-il dire par là? Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, bien entendu. Il faut être léger, il faut être danseur, c'est-à-dire être léger avec les valeurs. Il faut fuir les valeurs lourdes et préférer les valeurs légères, les valeurs lourdes. Ce sont les vieilles valeurs métaphysiques, précisément la vérité, la morale, le bien, le mal, Dieu, etc. Mais aussi la science, toutes ces valeurs qui plombent littéralement et qui terrassent littéralement l'esprit humain, alors qu'elles ne font que l'enterrer sous une forme de culpabilité. Donc, la conscience n'est qu'un instrument, elle n'est qu'une faible partie du psychisme humain. Et donc, on se retrouve ici dans l'agonie de la philosophie de la conscience que Nietzsche lui-même a appelé en quelque sorte le nihilisme. Et Nietzsche se considère comme lui-même le dernier nihiliste et le premier philosophe d'une nouvelle philosophie, qui sera une philosophie positive, une philosophie de l'art. L'art de philosopher et la philosophie de l'art ne faisant plus qu'un, et une philosophie légère qui renouvelle la morale et qui permet à l'homme de se libérer de la culpabilité ancestrale, en quelque sorte. Il est constant que la philosophie de Nietzsche n'a pas eu une véritable postérité. Contrairement à celle de Marx, par exemple, juste avant lui, contrairement à la philosophie de Hegel, contrairement à d'autres, à tous les philosophes du XIXe siècle, la philosophie de Nietzsche n'a pas eu véritablement de postérité, et sauf peut-être lointainement dans la pensée de Michel Foucault, mais encore plus par référence véritablement que par filiation. On peut se demander pourquoi. Sans doute la philosophie de la conscience n'était-elle pas véritablement morte. Sans doute Nietzsche a-t-il été trop précoce en procédant, j'allais dire, à l'enterrement anticipé de la conscience et peut-être aussi d'ailleurs d'autres valeurs. Il y avait encore place au XXe siècle pour une philosophie de la conscience, mais qui réserve en son sein véritablement une théorie de l'inconscient. Et ce n'est pas de Freud dont je voudrais parler maintenant. Je voudrais réserver à la quatrième et dernière séance de la semaine prochaine les approches, si vous voulez, du freudisme pour montrer comment... Cette pensée de Freud est née juste à son époque. Je voudrais maintenant évoquer, c'est toujours dans mon propos, une philosophie de la conscience du XXe siècle, donc post-Nietzschéenne, et qui, en quelque sorte, laisse place à une théorie de l'inconscient, mais qui n'est pas freudienne. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, justement la dernière fois, un courant de la philosophie du XXe siècle, un des deux courants principaux de la philosophie du XXe siècle, le courant principal de la première, le courant principal, je vous prie de m'excuser, de la première moitié du XXe siècle, qui est la phénoménologie. Hein, comme phénomène, et puis on rajoute ologie à la fin, cela fait la phénoménologie. Deuxième moitié du XXe siècle, le second courant, c'est plutôt la philosophie analytique, anglo-saxonne, philosophie de la science, philosophie logique, etc. Mais la première moitié du XXe siècle, c'est bien la phénoménologie, avec des auteurs, et je vais les écrire, comme Husserl, Heidegger, et en France, Merleau-Ponty et Sartre. Et Emmanuel Lévinas également en France. Voilà, il y a d'autres phénoménologues. Hein. Il y en a d'autres, mais ce sont les quatre plus connus, et je voudrais ici parler de Husserl et de Sartre. Alors, Husserl, philosophe allemand du début du XXe siècle. H-U-2-S-E-R-L. Husserl. H-U-2-S-E-R-L. Pour... alors, Husserl se situe à nouveau, comme quoi il y a des discontinuités dans l'histoire de la philosophie. Après le fracas de la philosophie nietzschéenne, on en revient à une philosophie beaucoup plus académique. Husserl se situe à nouveau en terre cartésienne. Il revient à la philosophie de Descartes. Et il vient du reste à la Sorbonne prononcer deux célèbres conférences sur Descartes qui ont été regroupées sous le titre « Méditation cartésienne » et qui ont été traduites par Emmanuel Lévinas. On se situe à nouveau dans le cadre cartésien. Et donc dans le cadre de la philosophie de la conscience. Absolument dans la philosophie de la conscience. Mais évidemment, il ne s'agit pas de répéter Descartes. Une philosophie n'est jamais la répétition d'une autre. Ou alors, si elle l'est, bon, elle est engloutie dans l'histoire. Enfin, plus personne ne s'y intéresse, c'est bien normal. Donc la philosophie de Husserl, qui a eu une importance très très grande, parce que la phénoménologie au XXe siècle se répand vraiment dans toute la philosophie européenne. La philosophie de Husserl se fonde sur la conscience, mais conçoit la conscience non plus comme une capacité, comme une faculté, mais comme une direction. Avoir conscience, c'est diriger son esprit vers. La conscience, c'est l'attention que je porte à. C'est ce qu'il appelle l'intentionnalité. C'est un mot complexe, c'est comme intention. Et alors là, il y a une différence en la langue française. Intentionnalité, donc je le prononce, hein, il y a bien deux N. Intentionnalité, alors que dans rationalité, il n'y en a qu'un. Mais ça, il ne faut pas chercher ce genre de raison, il n'y en a pas. Hein. Intentionnalité, donc la conscience est intentionnalité. C'est compliqué, mais ça veut dire quelque chose de simple. Toute conscience est conscience de quelque chose. Voilà. Hein. La conscience est un vecteur et non pas un point. Vous savez qu'un vecteur, c'est une flèche. Ce n'est pas un point plus une flèche, c'est une flèche. C'est un mouvement. La conscience est donc mouvement. Toute conscience est conscience de quelque chose. Quelque chose de concret, je regarde ce cahier, je suis conscience du cahier, donc voilà. Ou quelque chose d'abstrait. Je pense à Pierre n'est pas là, intentionnalité de la conscience. Il n'est pas là, mais ma conscience se dirige quand même vers lui. Je me souviens de Paul, intentionnalité de la conscience, qui se dirige vers le passé. Je pense à demain, vais-je rencontrer Arthur demain ? Eh bien, à chaque fois, il y a intentionnalité que l'objet soit présent et concret, ou que l'objet soit absent et ou abstrait. D'accord. C'est l'intentionnalité de la conscience. Bon. Alors, à l'intérieur de cette structure de la conscience, de cette structure intentionnelle de la conscience, y a-t-il place à un inconscient ? Pour Husserl, délibérément, non. Dans l'œuvre de Husserl, non, on reste dans la sphère de la conscience. C'est-à-dire que toute conscience est conscience de quelque chose et je ne peux pas avoir conscience inconsciemment de quelque chose. Je ne peux pas, il n'y a pas de représentation inconsciente, si vous voulez. Voilà. Toute représentation est nécessairement consciente. Donc, on n'est pas dans l'inconscient freudien. Mais Husserl n'est pas le seul phénoménologue. D'autres phénoménologues, c'est-à-dire les héritiers de sa philosophie, ont été jusqu'à penser une intentionnalité inconsciente, c'est-à-dire une direction de l'esprit, mais qui se dirige vers un objet sans voir cet objet, sans avoir conscience de cet objet. Une sorte de faculté désirante de l'esprit qui est tendue vers un objet, mais cet objet reste obscur. Ce que le magnifique Bunuel a fort bien nommé cet obscur objet du désir. Il n'est pas obscur par accident, il serait obscur par essence. L'objet du désir serait obscur par essence parce que, précisément, puisque je le désire, je ne me le représente pas. Ce que je désire, je ne me le représente pas. Ce que je parviens de me représenter, je ne le désire plus. Voilà. Si je désire, l'objet est obscur. Si l'objet n'est plus obscur, c'est que je ne le désire plus. Il y aurait là une intentionnalité, si vous voulez, proprement inconsciente. Certains auteurs, alors là, je ne vais pas entrer on pourra les voir la prochaine fois d'ailleurs, ce serait une bonne idée. Certains auteurs ont voulu développer cette intentionnalité inconsciente, mais là, du coup, on n'est plus du tout dans l'histoire de l'inconscient, puisque ces auteurs sont phénoménologues, mais post-freudiens. C'est-à-dire qu'ils pratiquent une synthèse entre Husserl et Freud. Comprenez ? Or, ce n'est plus exactement mon objet d'aujourd'hui, puisque moi, justement, je m'intéresse à l'histoire de l'inconscient, c'est-à-dire à cette histoire qui fait que l'impensé devient nommé sous le nom d'inconscient. Alors, je voudrais m'intéresser à un phénoménologue français, Jean-Paul Sartre, très connu en France, et qui commence seulement à devenir un auteur universitaire, un auteur étudié à l'université, parce que l'activité publique de Sartre a caché son œuvre, beaucoup plus qu'elle ne l'a révélée. Et l'œuvre proprement philosophique de Sartre, qui existe, la transcendance de l'ego, par exemple, qui sait que Sartre a écrit la transcendance de l'ego, l'imaginaire, l'imagination, l'être et le néant, cahier pour une morale, etc. Tout ça, c'est de l'œuvre philosophique de Sartre, et finalement, elle a été, et pendant longtemps, et c'est bien normal, un peu caché par, je dirais, sans péjoration, le tohu-bohu et le brouhaha de son existence publique. Mais il l'a bien voulu lui-même, donc il n'y a aucune plainte ici à lui adresser. Dans L'être et le néant, qui est sans doute son œuvre la plus achevée, et celle qui lui sert de thèse d'une certaine manière, il ne soutient pas cette thèse universitaire parce qu'à l'époque, il écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, il est déjà un écrivain très connu, et donc il ne cherche pas les titres universitaires, il n'est plus professeur déjà depuis longtemps au moment où il écrit L'être et le néant, donc ça n'est pas une thèse universitaire, contrairement à son ami et collègue Maurice Merleau-Ponty, pour qui justement la phénoménologie de la perception représente sa thèse universitaire, bref. Jean-Paul Sartre, dans le deuxième chapitre de L'être et le néant, cherche dans la conscience elle-même les possibilités de manifestation qu'on appelle inconsciente, qu'on a l'habitude de nommer inconsciente. Tout se passe comme si l'inconscient freudien était, pour le phénoménologue Sartre, inutile. Il y a dans la conscience elle-même assez de complexité pour expliquer tous les phénomènes psychiques. Voilà. Il n'y aurait pas besoin de l'hypothèse de l'existence d'un inconscient psychique. Il y a dans cette conscience des possibilités. Et il élabore une théorie très célèbre, qui est la théorie de la mauvaise foi. Rien à voir avec la mauvaise foi au sens psychologique du terme, cacher quelque chose, être hypocrite. La mauvaise foi, c'est ne pas choisir. La conscience, pour Sartre, c'est toujours du choix. Je choisis. Et il va même jusqu'à dire « je choisis mon passé ». Non pas au sens où je le change, personne ne change son passé, mais où je choisis le sens qu'il a. Et parfois, mon passé change de sens selon mon présent. Tel événement du passé aura pour moi été un échec douloureux, par exemple, mais il m'a conduit à une voie qui m'amène au bonheur, et dès lors, cet événement change de sens, tout à fait. C'est moi qui choisis le sens de cet événement. À chaque instant, je choisis le tout de mon existence, le présent, le futur, et même le passé. Vivre, c'est choisir. Hein. Exister, c'est choisir de vivre, etc. Je ne peux pas ne pas choisir. J'ai tous les choix dans l'existence, sauf un, ne pas choisir. Voilà. Or, précisément, la mauvaise foi consiste à un moment où la conscience ne veut pas choisir. Et là apparaissent des phénomènes qu'on appelle inconscients, parce qu'ils sont bien conscients, mais la conscience ne veut pas choisir son présent réel. Elle s'échappe. Alors Sartre, avec le brio qu'il a parfois pour trouver les exemples, Sartre choisit des exemples apparemment triviaux pour expliquer et tenter d'illustrer plus exactement des théories apparemment fort complexes. Pour la théorie de la mauvaise foi, il choisit l'exemple, un exemple qu'on appelle ou bien l'exemple du flirt, ou bien l'exemple de la femme coquette. Un fond de misogynie, comme vous allez voir, un petit peu, c'est étonnant pour Jean-Paul Sartre, mais tout de même, il me semble, moi, qu'il y a... Voici cet exemple, et je ne vais pas le lire en entier, mais seulement certains passages pour indiquer ce que peut être une théorie de l'inconscient à l'intérieur d'une phénoménologie de la conscience. Voici par exemple une femme qui s'est rendue à un premier rendez-vous. Alors attention, on est en 1942. Il faut se resituer dans l'époque et ce qu'est un premier rendez-vous. Elle sait fort bien les intentions que l'homme qui lui parle nourrit à son égard. Elle sait aussi qu'il lui faudra prendre tôt ou tard une décision. Mais elle n'en veut pas sentir l'urgence. Elle s'attache seulement à ce qu'offre de respectueux et de discret l'attitude de son partenaire. Elle ne saisit pas cette conduite comme une tentative pour réaliser ce qu'on nomme les premières approches, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir les possibilités de développement temporel que présente cette conduite. Elle borne ce comportement à ce qu'il est dans le présent. Elle ne veut pas lire dans les phrases qu'on lui adresse autre chose que leur sens explicite. Elle refuse de voir le futur parce qu'elle n'a pas envie de choisir ce futur. Ce sera oui ou ce sera non. Ben justement, elle n'a pas envie que ce soit oui ou non. Elle a envie que ce soit encore un peu les deux. N'est-ce pas ? Et donc, elle va immobiliser le présent comme s'il était éternel. Cet homme est respectueux dans le présent ? Pas du tout par stratégie ? Non, non, non. Pas du tout. Il lui fait-il la cour ? Non, non, non. Pas du tout. Voilà. Elle borne... Si on lui dit « je vous admire tant », elle désarme cette phrase de son arrière-fond sexuel. Elle attache au discours et à la conduite de son interlocuteur des significations immédiates qu'elle envisage comme des qualités objectives. L'homme qui lui parle lui semble sincère et respectueux, comme la table est ronde ou carrée, comme la tenture murale est bleue ou grise. Et les qualités ainsi attachées à la personne qu'elle écoute sont figées dans une permanence chosiste qui n'est autre que la projection dans l'écoulement temporel de leur strict présent. Bref. C'est qu'elle n'est pas au fait de ce qu'elle souhaite. Là, qu'il y a un peu de misogynie. Bon. Elle est profondément sensible au désir qu'elle inspire, mais le désir cru et nu l'humilierait et lui ferait horreur. Pourtant, elle ne trouverait aucun charme à un respect qui serait uniquement du respect. Donc, elle veut être désirée comme objet et respectée comme personne, mais en même temps, et elle ne veut pas le séparer. C'est-à-dire qu'elle veut être à la fois respectée comme objet et désirée comme personne. Elle veut le chiasme, bien entendu. Et elle a raison de vouloir. C'est le charme de l'heure. Elle en profite, bien entendu. Alors, c'est une conduite de mauvaise foi. Elle ne veut pas choisir. Mais bon, vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Donc, si l'homme était seulement respectueux, elle s'ennuierait. Si l'homme était seulement désirant, elle serait choquée. Voilà. Il faut, pour la satisfaire, un sentiment qui s'adresse tout entier à sa personne, c'est-à-dire à sa liberté, qui soit une reconnaissance de sa liberté. Mais il faut, en même temps, que ce sentiment soit tout entier désir, c'est-à-dire qu'il s'adresse à son corps en tant qu'objet. Cette fois donc, elle refuse de saisir le désir pour ce qu'il est. Elle ne lui donne même pas de nom, elle ne le reconnaît que dans la mesure où ce désir se transcende vers l'admiration, l'estime, le respect, où il s'absorbe tout entier dans des formes plus élevées qu'il produit, au point de n'y figurer plus que comme une sorte de chaleur et de densité. Mais voici qu'on lui prend la main. Voilà. Et c'est l'événement qui va l'obliger à choisir. Voilà. Hein. Voici, alors, c'est le flirt des années 40. Donc, hein, voici qu'on lui prend la main. Ben oui. Voici qu'on lui prend la main. Cet acte de son interlocuteur risque de changer la situation en appelant une décision immédiate. Abandonner cette main, c'est consentir de soi-même au flirt, c'est s'engager. La retirer, c'est rompre cette harmonie trouble et instable qui fait le charme de l'heure. Il s'agit de reculer le plus loin possible l'instant de la décision. On sait ce qui se produit alors. J'aime beaucoup le « on sait ». On sait ce qui se produit alors. La jeune femme abandonne sa main, mais ne s'aperçoit pas qu'elle l'abandonne. Elle ne s'en aperçoit pas parce qu'il se trouve par hasard qu'elle est, à ce moment, tout esprit. Elle entraîne son interlocuteur jusqu'aux régions les plus élevées de la spéculation sentimentale. Elle parle de la vie, de sa vie. Elle se montre sous son aspect essentiel, une personne, une conscience. Et pendant ce temps, le divorce du corps et de l'âme est accompli. La main repose inerte entre les mains chaudes de son partenaire, ni consentante, ni résistante, une chose. Voilà. Hein ? Donc, c'est un morceau de bravoure de Sartre, assez connu dans L'être et le néant. Il nous intéresse ici, je me suis permis de le lire un peu longuement, ce passage nous intéresse parce qu'il est précisément tout entier situé dans une philosophie de la conscience, comme vous l'avez remarqué, qui reste une philosophie de la conscience, mais qui est une phénoménologie de la conscience et qui prétend expliquer des phénomènes apparemment dus à l'inconscient simplement par des procédures de la conscience qui, précisément, parvient à se nier elle-même dans la mesure où la jeune femme qu'il appellera après la jeune coquette. Elle est coquette, figurez-vous. Cela suffit à la définir comme coquette. Je trouve que c'est un peu excessif. Bon, après tout, et l'homme, comment le nommer alors ? Un séducteur, peut-être. Voilà, bon. Le séducteur et la coquette. Bon, d'accord. Je reprends. Nous sommes là dans les cadres d'une philosophie de la conscience qui parvient jusqu'à s'annuler elle-même, se nier elle-même, puisque la conscience qui est choix, qui est volonté, ici, elle est choix de ne pas choisir, volonté de ne pas vouloir, et dès lors, conscience de ne pas être consciente, etc. Il faut que cette main ne soit plus consciente. Qu'elle... Voilà. Alors, la psychologie freudienne dira le corps symptôme ici, effectivement, la main devient inerte. Sartre semble dire ici, pas besoin de cela. Il suffit de définir la conscience comme choix et comme volonté, comme choix d'exister, et dès lors que je choisis de ne pas choisir, il est normal que cette partie de moi, qui est en l'occurrence la main, eh bien, ne soit plus sensible parce que ça arrange. La conscience, c'est tout simplement de la mauvaise foi, mépris au sens strict du terme. Alors, comme je voudrais garder quand même un moment d'échange, eh bien, que conclure sur ce très bref aperçu, si vous voulez ? C'est que, finalement, au XXe siècle, on a pu trouver une philosophie de la conscience qui, enfin, permettait d'absorber, permettait d'intérioriser cette existence de phénomènes inconscients. Jusqu'alors, dans la philosophie de la conscience, l'inconscient demeure un inconnu. Mais là, dans la phénoménologie, il demeure un autre. La conscience est aussi son autre. Et comme le disait Rimbaud précisément dans la première lettre qu'il écrit à son ancien professeur Isambard, « Je est un autre ». Et c'est précisément de cela que témoigne la philosophie phénoménologique au XXe siècle. Je vous remercie.